Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, mes frères et mes sœurs. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu, ce matin, nous bénisse. Nous sommes heureux de nous retrouver dans sa sainte présence. Voilà, maintenant, mes bien-aimés, c'est un temps particulier qui va faire que nous puissions ouvrir nos Bibles et laisser le Saint-Esprit, laisser Dieu notre Père, laisser notre Seigneur Jésus-Christ nous conduire dans les pâturages célestes où il va nous donner à recevoir de sa part ce qui constituerait autant la nourriture autant convenable, mais aussi la parole de Dieu pour pouvoir nous donner à acquérir ce qui nous a été préparé ce matin. Mais il y a quelque chose qui vient dans mon esprit et je voudrais, s'il vous plaît, le partager avec vous comme entrée en matière. Ce serait en quelque sorte une anecdote. Une anecdote qui m'amènerait à vous dire comment se comportait un professeur d'université, appelé communément un maître de conférence, qui enseignait des étudiants et qui, pendant une semaine d'enseignement, il a fait une conférence sur ce sujet où, comme entrée en matière, il déclarait, écoutez, ça semble rien, mais ce qui peut sembler rien au départ peut prendre une grande importance par la suite. Qu'est-ce qu'il déclarait? Le citron se compose du zeste ou pelure. Et pendant une semaine, il est revenu, à chaque fois, il est revenu sur la même chose. Le citron se compose du zeste ou pelure. Puis il a développé un petit peu le sujet pour pouvoir donner quelques explications. Alors, lorsqu'on lui pose la question, mais monsieur le maître de conférence, pourquoi pendant toute une semaine, vous êtes revenu sur le même sujet et vous avez pris le même thème pour pouvoir développer ce que vous vouliez enseigner aux étudiants? Sa réponse a été celle-ci. Je l'ai fait, c'est parce que je savais que dans l'auditoire, dans ceux qui écoutaient, il y avait beaucoup qui étaient dans cette position et qui n'admettaient pas ce que moi j'enseignais. Alors je suis revenu chaque fois sur la même chose jusqu'à ce que cela rentre dans le cœur. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai dit, mais c'est le même principe que Dieu emploie. L'apôtre dira, je ne cesse de vous rappeler les mêmes choses. Eh bien, c'est un peu ce que fait Jésus avec l'Église. Il revient chaque fois sur le même sujet qui déjà a été partagé. Et puis, ne trouvez pas étrange, frères et sœurs en Christ, comme cela m'a été fait remarquer, comme l'a fait remarquer depuis déjà un petit moment, que fort souvent, eh bien, ce sont les mêmes thèmes qui reviennent. Mais si le même thème revient, c'est pas celui qui prêche qui est important, c'est celui qui lui donne la pensée qu'il faut développer. C'est-à-dire que quand Jésus institue ou établit un serviteur, il est l'instrument par lequel il va communiquer sa pensée à son peuple. Et pourquoi il revient sur le même sujet? Parce qu'il voit que dans ce cadre-là, beaucoup n'ont pas acquis ce que Dieu voudrait qu'ils acquièrent, pour que cela fasse son effet dans leur cœur, pour que cela produise du fruit, pour que cela soit utile, et pour qu'en pratique, eh bien, chacun puisse en trouver un profit personnel. Alors ce matin, mes bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles. Donc l'anecdote, vous l'avez compris. Voilà, donc ça veut dire que derrière ce maître de conférence qui revenait fort souvent sur le même sujet pendant une semaine, il poursuivait un dessein pour que la parole qu'il enseignait rentre bien dans les cœurs. En effet, quand vous prenez un citron, si vous prenez un citron jaune, vous le râpez, eh bien cette partie qui est râpée, qui a une odeur, c'est ça qu'on appelle le zeste. Mais le zeste, on ne peut pas le dissocier de la pelure, parce qu'après il y a une pelure qui est blanche, mais chacun a sa particularité. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles ce matin et nous allons regarder un texte. Ce texte se trouve dans l'épître de Paul aux Colossiens, mais il faut que je puisse prendre mon petit carnet de notes parce que je ne l'ai pas pris avec moi. Alors, regardez avec moi dans la parole de Dieu que nous allons partager ce matin. Il y a quelques temps, nous avons vu au cours de deux messages successifs comment la grâce de Dieu était manifestée, d'abord à l'égard d'une femme étrangère nommée Ruth, communément traduite comme étant la Moabite, comment, en tant qu'étrangère, elle pourra faire cette déclaration. Dans le livre de Ruth, elle dira « Tu as parlé au cœur de ta servante et tu m'as consolé. » Une parole qui amène la consolation. Et puis, le deuxième volet de la grâce de Dieu que nous avons considéré, c'est ce qui va suivre la déclaration de David dans le livre de Samuel, dans 2 Samuel 9, où il va se poser la question dans un temps particulier, le royaume est en repos, où le royaume est en extension, où Dieu lui donne la victoire sur ses ennemis. C'est un temps du royaume qui est un temps béni, mais malgré cela, le roi a une préoccupation qui l'amène à cette déclaration. Reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? Et là, nous sommes sur le terrain de la grâce de Dieu qui se manifeste à l'égard de quelqu'un qui, sur l'aspect extérieur, est atteint d'un handicap, perclu des pieds, mais qui, à partir du moment où la grâce de Dieu lui sera accordée, tout en étant perclu des pieds, bien va vivre une expérience merveilleuse. Puisque dans la déclaration du roi, il va venir, on va aller le chercher, il habitait dans la maison de Makir, à Lobéda, et la Bible nous montre que quand le roi l'envoie chercher, David l'envoie chercher, et tout un processus va être mis en place jusqu'à ce qu'il déménage de chez Makir à Lobédar, qu'il emménage vis-à-vis du palais royal à Jérusalem, et que la Bible nous dit qu'il mangeait tous les jours à la table du roi comme l'un de ses fils. Et le récit se termine, et c'est là la leçon spirituelle. Par cette réalité qui était un constat, et il était boiteux des deux pieds. Il avait déménagé, il avait reconnu sa misère, son incapacité, puisqu'il dira au roi, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Ce n'est pas qu'il s'est dévalorisé, mais il reconnaissait qu'il avait un handicap et qu'il n'était pas mieux qu'un chien mort. Il reconnaissait ainsi son inutilité, mais c'est ça la grâce de Dieu. Et la fin du récit nous a montré en leçon spirituelle que malgré le fait que nous avons des tares dans la chair, nous avons une vieille nature qui est définie comme étant corrompue dans son entendement, mais ça n'empêche en rien que la grâce que Dieu nous a fait, que nous avons cru pour le salut, elle continue à se manifester dans chacune de nos vies. Et c'est indépendamment de ce à quoi on est confronté, et elle sera notre part jusqu'à ce que Dieu nous fasse quitter la terre. Gloire à Dieu. Alors ce matin, c'est dans l'épître de Colossiens que nous allons nous arrêter. Dans Colossiens, le chapitre 2, Colossiens chapitre 2, versets 9 à 13. Nous allons nous arrêter sur ce texte-là, car c'est là que le Saint-Esprit, ce matin, a permis que l'instrument de Jésus, le serviteur de Dieu, s'arrête. Il ne s'y est pas arrêté par lui-même, il s'y est arrêté parce que le Seigneur l'y a conduit. Amen. Ici, José, je vous donnais le petit témoignage, mais Ce n'est pas toute chose qui est bonne à dire. Il y a des choses qu'on veut, qu'on peut vivre en tant que responsable. Mais je bénis Dieu. Je ne peux que le bénir parce que tout vient de lui. Tout vient de lui, tout est par lui et tout est pour lui. Amen. Alors, Colossiens chapitre 2, verset 9. Car en lui habite corporellement, dites avec moi, toute la plénitude de la divinité. C'est une belle parole, mais c'est une parole qui a une profondeur, une dimension que malheureusement notre esprit, quelquefois, ne saisit pas. Il faut que le Saint-Esprit s'associe à notre esprit et amène la clarté spirituelle pour que nous puissions en tirer un profit. Je répète le verset 9, car en lui, en Jésus-Christ, habite corporellement, donc physiquement, toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Mes frères et sœurs, mais écoutez, dites amen au moins, s'il vous plaît. Quand je dis ça, mais il y a une vie, il y a une profondeur, il y a une ouverture, il y a une dimension spirituelle. Et mon âme en moi, quand elle adhère à ce que je lis, je ne peux pas rester insensible. Mais mon âme bondit de joie à l'intérieur parce que mon âme maintenant est entrée dans cette réalité-là. Lisez la suite avec moi, s'il vous plaît. Verset 10. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Vous avez? N'allez pas vite, s'il vous plaît. N'allez pas trop vite. Donc, nous avons lu qu'en Jésus-Christ, Dieu a fait habiter corporellement toute la plénitude de la divinité. Nous sommes d'accord? Mais après, vous avez tout pleinement. Donc cette même plénitude que Dieu a fait habiter en Jésus, Dieu me dit ce matin, Claude, cette même plénitude-là, je l'ai fait habiter où? Où? Je l'ai fait habiter en toi. Je l'ai fait habiter en toi. Vous avez tout pleinement en lui. Tout. Donc quand le Seigneur me dit ça, c'est pour me montrer qui je suis à ses yeux. Premièrement, et deuxièmement, c'est dans le désir de me montrer non seulement qui je suis à ses yeux, mais ce que moi je dois considérer à partir du moment où je lis ce qu'il dit et que le Saint-Esprit en moi saisit la parole et la rend vivante en moi. Comme dit le pasteur Célestine quand il prêche, ce n'est pas le moment de dormir. Et il faut être bien réveillé pour laisser la parole de Dieu pénétrer ton cœur ce matin, afin que la vie de l'Esprit s'amplifie en toi. Et si elle s'amplifie en toi, elle va s'exprimer en toi. Gloire à Dieu. Mais c'est pas tout. Vous avez tout pleinement en lui. Et notez bien, en lui qui est le chef. De quoi? De toute domination et de toute autorité. Nous allons y venir tout à l'heure. N'allons pas trop vite. Nous allons y venir tout à l'heure pour voir ce que Jésus veut nous rappeler ce matin. Non pas quelque chose qu'on ignore, c'est quelque chose qu'on sait. Mais quand le Saint-Esprit nous fait rentrer derrière les mots, et pour tirer des ouvertures, pour qu'en application personnelle, non seulement on est béni de la part de Dieu, mais quand on a compris ça, il y a quelqu'un à qui on crée un problème. Nous sommes l'Église de Christ, frères et sœurs, ce matin. Nous sommes le troupeau que sa main conduit. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous avons dû prier aux yeux du Père. Donc, il y a quelqu'un qui a un problème ce matin. Quand moi je lis ça, quand je le comprends, eh bien, ce n'est pas quelque chose que moi j'invente. Je n'ai fait que croire ce que dit l'Écriture. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef, alléluia, de toute domination et de toute autorité. Mais c'est pas tout, il continue. Verset 11. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main de l'homme n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Exemple qui accompagne la pensée, qui s'ouvre dans le verset 12, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, alléluia, par la foi. C'est quelque chose qui découle de la foi. Par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Et derrière ce mot incirconcision de ma chair, je ne peux que comprendre par mon incapacité de produire par moi-même, dans ma nature humaine, quelque chose qui satisferait aux exigences de la justice divine. Incapable. Vous qui étiez morts par vos offenses, ce qui nous est rappelé dans Éphésiens 2, verset 1er, et par l'incirconcision de votre chair, votre nature humaine, il vous a rendu à la vie, mais avec lui, avec Christ, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Donc cela veut dire, frères et sœurs en Christ, le but que poursuit le Saint-Esprit dans cette épître, à l'épître de Paul aux Colossiens, comme l'épître de Paul aux Éphésiens, comme l'épître de Paul aux Philippiens, ce sont les épîtres que l'apôtre a écrits pendant qu'il était entre quatre murs en prison. Et particulièrement à l'église de Colosse, dans laquelle Dieu nous arrête ce matin, l'apôtre Paul n'avait jamais fait de voyage dans cette ville de Colosse. Et il se pourrait que ce soit l'un des serviteurs de Dieu, particulièrement l'un nommé Épaphras, qui ait été l'instrument dans la main de Dieu pour pouvoir permettre que cette église de Colosse prenne naissance. Mais l'apôtre avait été informé de la situation. Quelle était la situation ? C'est que malheureusement, quand Dieu a fait un travail, qu'il a permis que des âmes soient sauvées, une église soit constituée, eh bien malheureusement, il arrive quelquefois que des choses étrangères, comme ce qu'on appelle communément aujourd'hui des fausses doctrines, qu'on ne sait d'où ils sortent, mais qui quelquefois peuvent sembler au prime abord avoir un certain attrait. Ça peut sembler attrayant dans le sens où ça semble amener des nouveautés. Pour moi, toutes mes nouveautés, elles sont dans les Saintes Écritures. Et certains faux docteurs étaient passés dans la ville de Colosse suite au travail accompli. Et voici qu'ils avaient amené une doctrine erronée qui a été appelée dans la suite des temps du gnosticisme. Enfin, je ne sais pas si je prononce bien le nom, mais quoi qu'il en soit. Et cette fausse doctrine prétendait, ou a tendance à prétendre que, entre le Dieu Saint, le Dieu Tout-Puissant et les êtres humains, il existe une multitude d'anges. Ça, je vais bien le croire. Mais là où la doctrine est fausse, erronée, c'est que certains faux docteurs prétendraient que Jésus est au même rang que les anges. Non ! Jésus n'est pas un ange. Qui est-il ? Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et nous comprenons pourquoi, frères et sœurs en Christ. Pourquoi il commence et ouvre le message au verset 9. Car en lui, différemment de ce qui existe dans les anges, en lui, en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est comme s'il mettait en évidence la personne de Jésus, le Fils de Dieu. J'ai noté, c'est comme s'il voulait montrer Jésus comme étant la prééminence divine. C'est comme s'il voulait montrer Jésus au travers de la toute-puissance divine manifestée en chair. C'est comme si, troisièmement, il voulait montrer Jésus dans sa glorification. Sa glorification qui accompagnait son intronisation. Et puis c'est comme s'il voulait montrer Jésus dans son éternité. Mais c'est pas simplement lui-même, c'est son éternité préparée pour être avec nous pour toujours. Gloire à Dieu. En lui habite corporellement. Et lorsqu'il dit corporellement, nous sommes obligés de regarder que Jésus a été manifesté comme la parole faite chair. Jésus manifesté comme le Verbe incarné. Jésus manifesté comme Dieu fait homme. Pour venir se mettre au niveau de l'homme pécheur. Mais avec le dessein divin, de l'amener à sortir d'une position dans laquelle il était encroûté à cause de ses offenses, mort spirituellement, pour passer désormais de la mort à la vie. Des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan qui manifeste son autorité destructrice à la puissance de Dieu qui nous fait rentrer sous sa position constructive. Et puis, de quitter enfin la main du destructeur pour retourner sous la main du Créateur, place prépondérante pour chacun de nous qui sommes devenus enfants de Dieu. Et puis, l'apôtre continue et le but qu'il poursuit dans ce qui est exposé ici, c'est en quelque sorte, le dessein qu'il poursuit par le Saint-Esprit qui l'anime, quand il fait cette déclaration, dont nous trouverons un petit peu un aperçu dans Colossiens 1:15, les paroles précédentes sont destinées en quelque sorte à détruire en quelque sorte, comme je viens de le dire, ce qui, comme de l'ivraie, voudrait s'incruster dans la bonne semence ou dans le bon grain. Ah, lorsque l'ivraie est semée dans le bon grain, tôt ou tard, les deux vont prendre racine et les deux vont pousser. Mais si un va pousser pour l'inutilité, l'autre va pousser pour être utile. Et le travail de Satan consiste justement à agir pour semer de l'ivraie dans le bon grain. Le bon grain, c'est la parole de Dieu. La bonne semence qui produit son effet lorsqu'elle trouve un terrain propice. Mais le travail de Satan, c'est de prendre tout ce qui est extérieur et de manière subtile, il envoie sa semence. Et béni soit Dieu, quelquefois, le Saint-Esprit entre en action, bloque. Dernièrement, j'ai entendu, comme vous, qu'il y a eu un conflit où un pays étranger a envoyé des drones sur le peuple de Dieu, sur Israël. Mais comme Israël avait prévu, ils ont mis en place un système anti-drone. Et paraît-il que 99% des drones envoyés par le pays concerné ont été bloqués. J'ai trouvé ça merveilleux. Qu'ils ont anticipé l'envoi de drones et que ces drones ont été bloqués parce qu'ils ont pris des précautions en amont. Alors, si c'est un plan humain, militaire, sur un plan militaire, les hommes sont capables de faire de tels exploits. Mais sur le plan spirituel, ne pourrions-nous pas laisser le Saint-Esprit mettre des avant-gardes pour que tout ce que celui qui possède l'autorité voudrait envoyer dans l'Église, dans les cœurs, dans les âmes que Jésus a rachetées, ne soit bloqué, frères et sœurs? Oui, je crois que le Saint-Esprit est capable d'agir ainsi. Parce que le travail de Satan, c'est un domaine dans lequel il n'est jamais au chômage. Semer de l'ivraie dans le bon grain. Jésus a dit, lorsque cette semence l'ivraie est semée dans le bon grain, Jésus a dit, il ne faut pas l'arracher. Il faut le laisser. Parce qu'il va pousser. Mais au moment de la moisson, il y a un expert en moisson qui connaît exactement où il en est dans ce domaine, et qui s'est discerné là, ça, de côté, ça, engrangé pour le royaume, ça, pour le royaume, ça, de côté. Alléluia. Donc ce matin, frères et sœurs en Christ, comme dans l'église de Colosse, le Saint-Esprit met en évidence la prééminence de Jésus. Colossiens 1,15. Voici ce que l'apôtre déclare pour contrecarrer cette fausse doctrine qui était entrée dans l'église de Colosse et qui, malheureusement, si on le laissait, risquait d'amener des désagréments dans les âmes. Regardez ce qu'il dit. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, verset 15. Continuez. Le premier-né de toute la création à laquelle il a lui-même participé. Car en lui ont été créées toutes choses. Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, visibles et invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose au pluriel. Et toute chose au pluriel subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout. Lisez. Afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude, on retrouve le mot plénitude, en lui. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Il est l'empreinte de sa personne. Il est le reflet de sa gloire. Alléluia. Donc quand je regarde Jésus, je vois Dieu qui a été fait homme. Mais quand je le vois à la croix, je vois Dieu lui-même qui vient accomplir le sacrifice qu'il fallait pour que mon âme soit sauvée, pour que mes péchés soient pardonnés et que je sors d'une condition misérable pour que je passe d'une position privilégiée comme enfant de Dieu, comme nous le sommes ce matin. On va plus loin. Regardez avec moi la suite de la déclaration de l'apôtre qui va nous amener maintenant à nous arrêter à partir du verset 11. Oh, même verset, avant le verset 11, il y a le verset 10, n'est-ce pas? Verset 10. Donc, vous avez tout pleinement en lui. Et puis là, voici qu'il va mentionner quelque chose d'important pour moi ce matin, pour toi, pour nous, pour l'Église. Mais cela ne peut être important que dans la mesure où j'en saisis la dimension spirituelle. Ce ne sont pas simplement deux mots, mais il y a une dimension spirituelle dans ce que l'apôtre déclare ici, dans ce que le Saint-Esprit permet qu'il soit rédigé, de ce que mon cœur maintenant saisit et comprend, de ce que maintenant, eh bien, Dieu permet que je puisse garder au fond de moi pour en être l'heureux bénéficiaire selon ce que Dieu veut. C'est en lui, ou plutôt, vous avez tout pleinement en lui, et puis voici qu'il mentionne qui est le chef. Jésus est le chef. Tout à l'heure, nous avons dit qu'il est le chef de l'Église qui est son corps. La tête est le chef. Mais là, il va mentionner la qualité de Jésus comme chef, mais il dit de toute domination et de toute autorité. Alors, j'ai pris le temps de regarder quelle ouverture je peux trouver derrière ce mot, particulièrement le mot domination et après le mot autorité. Cela veut dire que le mot domination va mettre en évidence le fait que celui qui domine, il a un pouvoir. Celui qui domine manifeste un pouvoir. Et le pouvoir manifesté par celui qui domine définit l'autre mot, l'autorité. Ceci pour me montrer que désormais, dans ma vie, comme enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ qui doit manifester l'autorité divine dans ma vie. Cela veut dire que dès lors que Dieu m'a pris en main, il m'a fait rentrer dans son dessein béni, il y a quelqu'un qui domine sur ma vie et qui règne dans mon cœur. Il est le chef de l'Église qui est son corps, mais dans chacune des vies de ceux qui sont devenus ses disciples, il désire manifester son autorité. Frères et sœurs en Christ, savez-vous que dans l'œuvre de la croix que Jésus a accomplie, la Bible nous fait mention que Jésus a dépouillé. Elle dépouillait quoi? L'autorité, les dominateurs, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Les a vécus publiquement en triomphant d'elle par la croix. Pourquoi je vous dis cela, frères et sœurs en Christ? Eh bien, je vais vous faire avec moi deux lectures. Elles sont importantes et elles sont importantes dans le sens où le Saint-Esprit va nous éclairer pour que nous puissions trouver le paramètre spirituel qui va nous amener à saisir la profondeur de l'esprit des paroles que le Saint-Esprit... Est-ce que vous connaissez le prophète Daniel? Vous connaissez le prophète Daniel? Savez-vous que le prophète Daniel a eu une vision prophétique de ce que nous partageons ce matin? Et ce, des siècles avant la venue de Jésus. Daniel a eu une vision prophétique qui lui a été donnée dans Daniel 7 à partir du verset 13.
qui, lorsque nous le considérons, eh bien, serait en quelque sorte déjà une ouverture bénie dans ce qui nous était réservé et qui nous était préparé, mais au travers de notre Seigneur qui s'appelle Jésus-Christ. Regardez, Daniel 7, verset 13. Donc, c'est la vision d'une scène se déroulant au ciel et qui précède le retour de Jésus. Alléluia. Et pour qui Jésus revient-il, frères et sœurs? Il revient chercher ceux qui l'attendent pour leur salut. Gloire à Dieu. Parce qu'il nous a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, que cette place sera préparée, alors je reviendrai vous chercher afin que vous soyez avec moi là où je suis. Alléluia. Mais déjà, Dieu permettait que son serviteur, le prophète Daniel, entrevoyait dans cette vision ce qui allait s'accomplir à partir du moment où le temps de Jésus était arrivé. Donc, lisez. Je regardais. Quand? Pendant ma vision nocturne. Et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Alléluia! Quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Mais celui qui est montré semblable à un fils de l'homme, l'apôtre aux Colossiens nous dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Et regardez la suite. Quelqu'un qui était semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna quoi? La domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais. Alléluia. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. Et c'est lui qui ce matin domine au milieu de nous. Lorsqu'il est venu accomplir l'œuvre de rédemption, il a substitué à Satan la domination qu'il exerçait. Il a brisé à la croix du calvaire. Désormais, Satan domine, il ne domine plus sur un enfant de Dieu qui est rentré dans le salut. Voilà pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, moi j'ai saint mes reins. Ce n'est pas avec la ceinture qui tient mon pantalon, mais j'ai saint les reins de mon entendement. Cela veut dire l'ensemble de mes aptitudes psychiques, avec l'action du Saint-Esprit, sont scellées par la parole de Dieu. Et l'ennemi peut bien rugir. Lorsqu'il rugit, moi je ne fais que confesser l'Écriture. Satan, Jésus t'a vaincu à la croix. La domination, le règne, la puissance, c'est Jésus qui le possède.
Alléluia.
À toi, tu l'as eu un temps. Satan, tu l'as eu. Tu l'as eu dans le témoignage rendu par l'Écriture, Ésaïe 14, Ézéchiel 28. Oui, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Oh, tu avais une gloire particulière qui t'avait été donnée. Ta mission comme Lucifer, c'était de détourner l'adoration des anges vers Dieu. Mais l'orgueil s'est trouvé chez toi. Et tu as dit, je m'élèverai au-dessus du trône du Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Alors tu as été précipité. Et parce que tu as été précipité, alors la terre est devenue ton champ d'action. Et avec tes démons et tes mauvais esprits, tu fais des ravages. Tu détruis, tu fais couler le sang, tu brises des coupes, des foyers, tu rends les hommes malheureux.
jusqu'au jour où l'évangile arrive. Et que la parole de Dieu détruit tout ce que tu as institué dans les cœurs et dans les vies. Mais moi, j'en étais un exemple. Mais quand Jésus est venu, que j'ai écouté sa parole, que le Saint-Esprit m'a convaincu, alors j'ai dit, Seigneur, voilà, je trouve entre tes bras le refuge. Et désormais, ça fait 41 ans que je me réfugie dans les bras de Jésus. Le refuge pour moi, comme pour toi, comme pour nous, c'est le lieu secret de la sécurité. Où Dieu veut que nous soyons placés, comme dit le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du tout. Mon frère Gérard, quel repos, hein? Frère Gérard nous a fait chanter, quel repos. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. À toi pour la mort et pour la vie. Ça veut dire que maintenant, ma sécurité, mon assurance, ma paix, ma joie, et tout ce dont mon âme a besoin, Dieu me l'a procuré au travers son Fils Jésus-Christ. C'est en lui que nous avons tout pleinement ce matin. Il est le chef de toute autorité et de toute domination. Voulez-vous faire avec moi une autre lecture? Voulez-vous faire avec moi une autre lecture? Le psaume 103. Verset 19, psaume 103, verset 19, l'autorité qui dominait sur nous, le Seigneur l'a détruit, alléluia. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et puis dans la bouche du psalmiste, il rajoute ceci, et son règne domine sur... Alléluia. Son règne domine sur toute chose, indépendamment de ce que les yeux voient, de ce que les oreilles entendent, de ce que peut concevoir l'esprit de l'homme. Dieu domine sur toute chose. Mais sur moi, sur nous, il domine par son Fils Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit. Donc, nous sommes sur le bon terrain et nous avons lu verset 10 de Colossiens 2, c'est en lui, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, la domination et l'autorité qu'exerçait sur nous l'ennemi de nos âmes, avant que nous devenions enfants de Dieu, ça désormais c'est fini. Oh, il peut essayer de... Nous créer quelques difficultés, c'est son travail. Et, oui, donc, ma sœur Rita, oui, c'est vrai, il ne chôme pas. Non, il n'est jamais au chômage. C'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Il n'a pas de syndicat, il n'a pas de délégué syndical, mais il n'est jamais au chômage. Alors, s'il n'est pas au chômage, est-ce que moi je serai au chômage? Alors, le jour où je comprendrai que le chômage me sera profitable, ce qui m'amènerait à dire maintenant, j'ai décidé de prendre du recul. C'est ce que Satan attend que tu prennes du recul. Parce que pendant que toi tu prends du recul, lui, il continue à travailler. Heureusement que Benjamin est là, parce que Benjamin est en train de bloquer mon recul. Mais ce n'est pas Benjamin qui bloque mon recul, c'est Jésus. Amen. Jésus me dit, Claude, non, recul, ce n'est pas pour toi. Ôte ça de ton vocabulaire. L'enfant de Dieu n'a pas de recul à prendre. Parce que Dieu l'a placé sur le chemin de la persévérance. Or, sur le chemin de la persévérance, il a un cap. Et le cap du chemin de la persévérance, c'est que ses yeux désormais sont fixés sur Jésus. Quand les yeux sont fixés sur Jésus, oh, loin de ton esprit de prendre du recul. Malgré les épreuves, malgré les souffrances, malgré l'hostilité de monde pécheur gouverné par Satan, malgré tout ça, quand tu peux être confronté, point de recul. Amen. Avec Jésus, on va toujours plus loin.
Alléluia.
On va toujours de l'avant. Des fois, le chemin est périlleux.
Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux, mais malgré tout, jusqu'au bout. Alléluia, dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Gloire à Dieu! Oui, jusqu'au bout, mon Seigneur, je veux te suivre. Jusqu'au bout, je vais avancer avec toi. Et ce qui m'amène maintenant à regarder le psaume 145 au verset 13. Ô merveilleux Maître, nous bénissons ton nom ce matin et nous nous réjouissons en toi. Divin Sauveur, roi de gloire, prince de la paix, admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, tous les attributs entrevus prophétiquement par Ésaïe concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je dis psaume 145, verset 13. Regardez, toujours pour la domination. Même verset 12. Attendez. Voilà, verset 13. Verset 10. Ben, écoutez, verset 10, pour élargir le champ de la pensée. Voilà, verset 10. Verset 9. L'Éternel est bon envers tous. L'Éternel est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Il continue. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et ta fidélité. Est-ce que c'est notre cas ce matin? Oui. Ils diront la gloire de ton règne. Et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Verset 13 qui nous intéresse. Ton règne est un règne de tous les siècles. Ton règne est un règne de tous les siècles. Mais il accompagne le règne avec la dot et il rajoute et ta domination subsiste dans tous les siècles. Alors, parce qu'il en est ainsi, le verset 14, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Alléluia! Et il redresse tous ceux qui sont. Alléluia! Alors, moi, volontairement, je me courbe pour que Dieu me redresse. Mais peut-être que ce matin, tu es courbé par un péché qui te tient, par une situation difficilement compréhensible, qui te mène à cette confession. Comment ai-je pu tomber si bas? Alors voilà, tu as la réponse ce matin. Gloire à Dieu. Ah, j'ai encore deux pensées à vous donner et nous allons conclure. Donc tout à l'heure, j'ai mentionné Ésaïe 14 concernant ce qu'était Lucifer avant sa chute. Ésaïe 14, versets 12 à 17. Puis j'ai mentionné Ézéchiel, chapitre 28, versets 1 à 10, pour ceux qui prennent des notes. Hein. Puis, nous allons maintenant revenir à Colossiens, notre texte initial, pour considérer maintenant le verset 11. Le verset 11. Il est dit ceci, « C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main de l'homme n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps, de la chair, etc. » Donc, nous sommes sur un terrain assez particulier, circoncision, incirconcision. Ah,
Dieu avait institué la circoncision pour le peuple juif, disant que lorsque l'enfant avait tel âge, il fallait que l'enfant soit circoncis. La circoncision, qu'était-ce, pasteur gentil? C'était un acte pratiqué sur le prépuce de l'enfant mâle qui permettait que, ainsi, une fois circoncis, il était en même temps démarqué des gens de nation. Et la circoncision dans la chair spécifiait son appartenance au peuple de Dieu. Vous êtes toujours d'accord? Oui, c'est pas moi qui l'ai rêvé. Lorsque le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, Dieu avait dit qu'il fallait circoncire la génération qui allait entrer en Canaan. Et c'est à Gilgal que ça s'est passé, mais ce n'est pas le but ce matin. Restons dans le texte qui nous intéresse. Mais il y veut parler maintenant, ce n'est pas une circoncision dans la chair. La raison, pourquoi? Pourquoi parle-t-il que ce n'est pas un acte dans la chair? Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas juifs. Pour la plupart, nous sommes des gens des nations. Et si cette circoncision était quelque chose d'applicable à ceux qui sont devenus disciples de Jésus, entre parenthèses, excusez-moi, mes sœurs, vous auriez un problème. Sans entrer dans les détails, mais vous auriez un problème. Mais la circoncision de Christ, c'est pour tout le monde. Tous ceux qui sont devenus disciples de Jésus, ils sont circoncis, mais de cœur. Une circoncision du cœur qui permet que le Saint-Esprit en action va œuvrer pour nous montrer que la chair ne sert de rien. C'est l'Esprit qui vivifie. Ce qui évite beaucoup de palabres. Dieu met tout le monde au même niveau, parce que désormais en Christ, il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a ni homme ni femme, parce que tous nous sommes un en Jésus-Christ. Mais il y a des hommes et des femmes, mais ce n'est pas le côté sexe, personne qui est important, c'est le cœur. Quand ton cœur est circoncis, le Saint-Esprit t'amène dans l'importance du dépouillement du corps de la chair. Or, le corps de la chair, c'est un corps avec lequel tu auras toujours des problèmes. Et heureusement, Dieu a créé en toi un homme nouveau. Et l'homme nouveau a été créé en nous dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ça veut dire que dans l'homme nouveau, il n'y a pas de péché. Le péché se manifeste dans ma chair, ma vieille nature. Mais comme Dieu avait tout prévu et entrevu, il a fait un travail merveilleux. Lequel, pasteur gentil? Mais c'est ce que j'expliquais aux baptisés hier. Je leur ai expliqué que le baptême qu'ils vont prendre, c'est en quelque sorte le témoignage de leur mort symbolique avec Christ dans sa mort expiatoire lorsqu'ils sont plongés dans l'eau, mais aussi le témoignage de leur résurrection avec Christ lorsqu'ils sortent de l'eau. Ce qui va produire deux choses importantes dans la vie nouvelle va se manifester par l'énergie et la puissance du Saint-Esprit. Deux, entre autres, mais ces deux-là sont fondamentaux. Le premier, Romains, le chapitre 6, verset 13. Oh, Seigneur, je te remercie pour ton enseignement ce matin. Alléluia, que Dieu soit béni. Et vous qui avez pris le baptême hier, ça vous concerne au premier degré. Regardez ce que l'apôtre dit. Romains, le chapitre 6, au verset verset 3. Bon, j'ai le droit de changer, non? Si je me suis trompé, je rectifie. Romains 6, verset 3. Pourquoi je dis verset 13? Parce que sur ma note, il y a une petite queue de l'Y symbolique qui a glissé. Et il fait une petite barre devant le 3. Alors bon,
Mais j'ai rapidement compris qu'il fallait que je rectifie. Voilà, la rectification a été faite. Donc maintenant, nous faisons la lecture. On y va ? Oui, pasteur gentil. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés comme vous hier en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis. Ah, mais si quelqu'un a dit ce que je voulais entendre derrière moi. Nous avons non pas été ensevelis, mais nous avons donc conjonction de coordination qui relie non seulement les deux pensées, mais qui institue une réalité. Nous avons donc quoi ? Été enseveli avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi. Que se passe-t-il ? Nous aussi, nous ? Nous marchions en nouveauté de vie. Donc, résultat produit par mon identification avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection, désormais, je vais porter du fruit. Et le fruit que je suis appelé à porter, ce n'est pas ce qui va provenir de l'énergie de ma chair, de ma vieille nature, mais c'est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Et puis, je voudrais que vous puissiez même, si vous voulez bien, revenir au texte. Afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et hier, au moment où mes frères plongeaient les catéchumènes dans les eaux du baptême, il disait, un tel, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ? Oui. Crois-tu qu'il est mort pour tes péchés et que Dieu l'a ressuscité pour ta justification ? Oui. Acceptes-tu de le suivre jusqu'à ce qu'il vienne te chercher en marchant avec lui en nouveauté de vie ? Oui, je le veux. Alors, sous ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, je sais que quelqu'un me dit, mais pasteur gentil, vous employez une formulation, c'est bien, mais ce n'est pas nécessaire, parce que Jésus n'a pas demandé spécialement qu'on fasse comme ça. Il a dit de le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans la logique, on pourrait dire, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et terminé. On n'a pas fait une erreur, on n'a rien ajouté, mais lorsqu'on écoute une confession qui suit une question qui a été posée, c'est aussi valable et important. Ça sort de la bouche quand ça vient du cœur. Oh, mes bien-aimés, que Dieu soit béni ce matin. Que le peuple de Dieu soit béni, pas glorifié, mais que le peuple de Dieu glorifie le Maître ce matin. Alors donc, la première chose qui va découler de cette réalité de ma mort avec Christ et mon édification dans sa résurrection, je vais marcher en nouveauté de vie. Deuxième chose, j'en ai fait un petit peu mention dans mon élan, mais je vais vous amener à l'Écriture. Romains 7, verset 4. Je vous ai dit, cela découle de l'expérience du baptême que nous avons reçu, que vous avez reçu. Moi, je l'ai reçu, le baptême. J'ai pris le baptême. Je suis arrivé à l'Évangile en septembre 1983. J'ai pris mon baptême en octobre 1983. Et quand je suis allé trouver Giovanni, c'est Giovanni qui prenait les inscriptions. Tu te rappelles, Giovanni ?
Je te dis, Giovanni, mon frère, je veux me faire baptiser. Giovanni, tu m'as répondu, mais tu viens d'arriver. J'ai dit, frère Giovanni, la Bible dit, celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Frère, je veux me faire baptiser. J'avais un mois de conversion. Mais ça suffisait, parce que le Seigneur avait fait un tel travail dans mon cœur que pour moi, il n'y avait pas besoin de calculer. Et puis, Giovanni, merci de ce que tu m'as inscrit. Hein. Alors, Giovanni m'a inscrit. Et je me suis fait baptiser. J'ai obéi à Jésus. Et puis, le Seigneur Jésus a travaillé. Mes bien-aimés, écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous voyez quelqu'un dans le monde et vous voyez ses actes, ses actions, ce qu'il fait, nous pourrions nous retrouver un peu comme ce qui pourrait être dit de Saul de Tarse avant sa conversion. Qui aurait dit que Saul de Tarse est un futur candidat du royaume de Dieu? Personne. Personne! Ses œuvres témoignaient contre lui. La fureur qu'il déployait contre les vrais disciples de Jésus, eh bien, personne n'aurait pu penser qu'un homme comme ça, même Ananias, quand Jésus lui a dit, eh bien, il y a dans la rue, qu'on appelle la droite, un homme qui prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui venait pour lui imposer les mains. Ananias a dit, Seigneur, mais s'il y a un homme que tu dois sauver, c'est pas cet homme-là. J'ai appris tout le mal qu'il a fait à tes saints. Seigneur, si tu dois sauver quelqu'un, tout le monde, mais sauf lui. Heureusement qu'on n'est pas Jésus. Hein. Heureusement qu'on n'est pas Jésus, parce que nous avons une conception qui va à l'encontre de la logique de Dieu. Alors voici la réponse de Jésus. Laisse, car cet homme, c'est un instrument que je me suis choisi. Il va porter mon nom devant les rois, devant les grands, devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Le témoignage de l'apôtre à Timothée. Timothée, cet évangile, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçu, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Auparavant, j'étais un persécuteur, un blasphémateur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde, parce que le plan de Dieu, c'était qu'il fasse voir en moi le premier toute sa longanimité et que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Frères et sœurs, ce Jésus, il s'est arrêté sur cet homme pour qui Dieu avait un plan, il est au milieu de nous ce matin. Alors, ne pourrait-il pas venir à ton secours et ce, quelle que serait la situation que tu vivrais? Je conclue, parce que la pendule ne m'attend pas. La pendule galope à grande vitesse, mais je vous donne la dernière pensée. Ah, mon Seigneur. Donc, première conséquence, on a fini la lecture? Non, oh non, on n'a pas fini la lecture. On n'a pas fini, mais on va le finir. Alors, de même, mes frères, Romains 7, 4, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. À qui? À celui qui est ressuscité des morts. Conséquence bénie, afin que vous portiez, non pas du fruit, mais que vous portiez, dites avec moi, des fruits. Mais vous ne portez pas des fruits pour en contre-espérance. Hein. Vous ne portez pas des fruits pour vous-même, mais vous portez des fruits pour Dieu. Ça veut dire que vous êtes devenu un arbre spirituel, mais un arbre fruitier. Vous portez des fruits pour la gloire de Dieu. Mais ça, ce sera le résultat produit par votre mort avec Christ dans sa mort expiatoire. Et votre résurrection avec lui pour d'abord marcher en nouveauté de vie, premièrement, et deuxièmement, porter des fruits pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et laissez-moi vous dire que jusqu'à ce que vous rendriez le dernier souffle, il y aura toujours des fruits
que vous porterez, parce que Dieu a préparé de bonnes œuvres pour que vous puissiez les pratiquer. J'ai une dernière pensée, je vous la donne rapidement. Où ça va? Je vous la donne? Bien. Alors, pour vous la donner, il n'y a même pas besoin de faire une lecture, c'est la fin de notre récit, on retourne à Romains. Romains, qu'est-ce que je dis là? Colossiens, pardon, excusez-moi. Colossiens, s'il vous plaît. Colossiens, le chapitre 2. Et nous arrêtons maintenant au verset 13. Le dernier verset. Et vous qui étiez, mais ça c'était avant, mort par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, votre vieille nature avec sa complexité, il vous a rendu à la vie avec lui. En vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Donc ce matin, mon frère, ma sœur, voilà un peu la pensée de l'Esprit pour l'Église. Pensée de l'Esprit pour vous qui êtes nouveau baptisés. Pensez de l'Esprit pour toi qui as 20 ans de conversion, 10 ans, 40 ans, 50 ans de conversion, c'est le même processus. La même parole de vie qui produit la vie et a son effet là où elle est reçue, là où elle est comprise, là où elle est acceptée pour que le Saint-Esprit arrive et nous pousse à la pratiquer. Recueillons-nous et prions le Seigneur.